19h, temps universel.
Washington, la voix de l'Amérique.
Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Jean-Roger Billon à ce micro. Sportrama, l'actualité sportive en Afrique et dans le reste du monde, c'est dans un instant. Et ce sera avec Nicolas Pineau. Je vous propose d'abord un bulletin d'information. En Libye, les violents combats pour le contrôle de l'aéroport international de Tripoli ont fait près de 50 morts. Les affrontements entre les islamistes et les milices Zintan s'étendent désormais aux zones résidentielles. Ce sont les pires violences en Libye depuis la chute de Muammar Kadhafi en 2011. Le forum de Brazzaville s'est ouvert aujourd'hui pour tenter de réconcilier les Centrafricains. Sur le terrain, à Bangui, un membre de l'ex-Seleka a échappé à une tentative d'assassinat. Le point avec Idriss Fall.
Le forum a démarré au Palais des Congrès à Brazzaville et va durer 3 jours. Au moins 186 Centrafricains participent à cette énième réunion pour la réconciliation. Peu avant le début des travaux, la communauté centrafricaine vivant au Congo a marché pacifiquement pour protester contre la poursuite des violences en Centrafrique. Par ailleurs, à Bangui, le calme est revenu dans le premier arrondissement. Des ex-Seleka casernés au bataillon du soutien et des services ont tiré en l'air ce matin pour protester contre une tentative d'assassinat d'un des leurs par des hommes assimilés aux anti-Balaka. À cause de l'insécurité, 87 Maliens qui étaient coincés à Boda dans le sud du pays sont arrivés ce week-end à Bangui. Maëve Donnel de l'Organisation internationale pour les migrations.
C'est le gouvernement de Mali qui nous a demandé d'organiser le logistique et le gouvernement de Mali organise l'évacuation des Maliens à Boda et à Bangui. Il y aura des avions qui vont arriver pour les amener à Bamako.
Avec l'appui de l'OIM, ces Maliens seront rapatriés cette semaine dans leur pays d'origine.
Merci Idriss. La conférence internationale sur la lutte contre le sida, à laquelle beaucoup de victimes du vol de Malaysia Airlines allaient prendre part, se déroule à Melbourne, en Australie. Environ 12 000 délégués, dont des chercheurs, des activistes et des personnes vivant avec le VIH-sida, se rencontreront jusqu'à vendredi pour envisager les meilleures réponses à la maladie et la façon d'accélérer les méthodes de prévention et de traitement.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Le président Barack Obama a demandé à Moscou d'user de son influence auprès des rebelles dans l'est de l'Ukraine pour permettre aux enquêteurs internationaux d'accéder librement au site du crash de l'avion malaisien abattu la semaine dernière par un missile. Chérubin Dorsil.
Pour M. Obama, qui parlait aujourd'hui à la Maison-Blanche, il nous faut savoir la vérité sur ce site dont l'accès est bloqué par les séparatistes pro-russes. Ces derniers retirent sans le moindre soin les corps, ce qui constitue, a poursuivi le président, une insulte à ceux qui ont perdu leurs proches dans cette catastrophe. La Russie et le président Vladimir Poutine doivent forcer ceux qu'ils ont encouragés, entraînés et armés à cesser d'entraver l'enquête, a encore dit M. Obama. Les enquêteurs néerlandais sur place ont demandé ce lundi aux rebelles de laisser partir le train réfrigéré contenant les corps des victimes. Et les leaders européens se disent prêts à prendre d'autres sanctions contre la Russie, à défaut d'un accès libre et total au site. Le premier ministre ukrainien Arseniy Yatsenyuk a offert de confier la coordination de l'enquête internationale aux Pays-Bas, le pays qui a le plus souffert de la catastrophe.
Et de nouveaux affrontements entre soldats ukrainiens et rebelles séparatistes ont fait au moins 3 morts près de Donetsk dans l'est de l'Ukraine. Les troupes gouvernementales tentent de reprendre la ville après avoir reconquis plusieurs villages dans la zone. Selon un porte-parole de l'armée nationale, l'aéroport est sous contrôle gouvernemental. Les deux camps ont ignoré l'appel à un cessez-le-feu après la tragédie de l'avion de ligne malaisien où 298 personnes, vous le savez, ont trouvé la mort. Au 14e jour de l'offensive israélienne sur la bande de Gaza, au moins 530 Palestiniens ont été tués. Côté israélien, 27 soldats sont morts depuis le début de l'offensive. Enfin, l'Iran a converti ou dilué sa réserve d'uranium hautement enrichi en vertu de l'accord signé avec le groupe des 6 en novembre dernier. L'Agence internationale de l'énergie atomique précise que plus de 200 kilos d'uranium enrichi à 20% ont ainsi été rendus inoffensifs. Les deux parties devaient aboutir à un accord permanent dimanche, mais elles ont convenu de prolonger les négociations jusqu'au 24 novembre prochain. Vous écoutez La Voix de l'Amérique. Ne partez pas, Sportrama, c'est dans quelques instants.
La région.
Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Sporama sur les ondes de la Voix de l'Amérique. Comme tous les lundis soirs dans notre émission, les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs, écrivez-nous sur la page Facebook de Sporama. Et nous attendons évidemment vos appels en direct, le 001-202-619-31-40. Avec nous ce soir, nos consultants. On va tout d'abord saluer Jules Valentin-Gouet à Libreville. Bonsoir Jules.
Bonsoir Nicolas, bon retour et bonsoir à tous.
Merci Jules. Et on va également faire un coucou à Élisée Ongpatine depuis Boïcon, c'est au Bénin. Bonsoir. Visiblement, on a des petits soucis pour joindre Élisée. On va rester dans un instant. Et Salif Kabore depuis Ouagadougou. Bonsoir Salif.
Bonsoir Nicolas, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à la Guadeloupe.
Et le football à l'honneur hein, ce week-end sur le continent, les matchs allés du troisième tour de la CAN 2015. Les équipes à domicile ont eu le sourire hein, ce week-end. Samedi, le Botswana a battu la Guinée 2-0. La Mauritanie s'incline en Ouganda 2-0. Et puis la Sierra Leone qui domine les Seychelles 2-0. Et puis évidemment intéressant hein, ces résultats ce dimanche puisque le Lesotho a dominé le Kenya 1-0. La Tanzanie et le Mozambique ont fait match nul, 2 buts partout. Et puis, à Pointe-Noire, le duel était attendu entre les Guêpes et les Diables Rouges. Et ce sont les Congolais qui se sont imposés 2-0. Évidemment, les Congolais ont fait la différence dans les 20 dernières minutes de jeu grâce à César Ganzé à la 70e, puis Ferebori Doré à la 86e. On va tout d'abord écouter Claude Leroy, le sélectionneur du Congo-Brazzaville.
Victoire, oui, victoire importante, pas suffisante. On est à la mi-temps. On a fait une bonne première mi-temps, donc on mène 2-0. Maintenant, à nous de préparer dans les meilleures conditions possibles le match retour.
Qu'est-ce qui vous a plu sur ce match au niveau de votre équipe?
Tout le travail en amont de ce match. Les séances d'entraînement sont bien passées. La relation entre le staff et les joueurs, le comportement des joueurs.
Voilà le technicien français Claude Leroy. Jules Valentin-Gouet, victoire intéressante, hein, évidemment, qui a été obtenue à Pointe-Noire. Hein.
Oui, une victoire intéressante, 2-0, c'était un score relativement sécurisant et qui n'étonne personne si et certains observateurs ont pu remarquer déjà depuis le champ que le Congo avait présenté une très belle équipe qui n'a pas eu de chance, qui a perdu sa qualification en dernière minute contre la Libye. Et maintenant, avec disons l'arrivée de Claude Leroy qui connaît bien le terrain africain, qui sait faire la recherche des joueurs, je crois que le Congo a marqué un grand coup déjà et est sur la bonne voie pour le retour sur la scène internationale.
Oui, Salif Kabore à Ouagadougou, important hein, évidemment, toujours ses victoires à domicile hein, avant d'aller voyager à Kigali. Hein.
Oui, tout à fait, parce que c'est quand même une marque de sécurité que les Diables du Congo donc ont pris. Hein, et je pense que pour le prochain voyage de cette formation, il va falloir donc justement assurer correctement donc les arrières. Et puis, bon, voilà, la qualification est là. Je trouve que c'est une équipe congolaise quand même, il faut le dire, qui est aussi en pleine reconstruction. Parce que le Congo avec Claude Leroy, véritablement, c'est une autre expérience qu'il faut vivre. Je crois que au regard de l'expérience de l'entraîneur, de sa carrure hein, sur le circuit du football africain, je crois quand même qu'il a ce devoir-là de s'imposer sur les autres formations, comme on l'a vu donc ce week-end. Et je pense que véritablement, il est sur une très bonne voie.
Merci beaucoup Salif, on va parler de ce dernier match évidemment à Cotonou, le Bénin a dû se contenter d'une victoire 1-0 face au Malawi, une petite déception hein, dans la mesure où les écureuils avaient ouvert le score très tôt dans la partie et ont largement dominé. On va prendre un premier auditeur en ligne, Géodos Dossou qui nous appelle depuis le Bénin, bonsoir.
Oui, bonsoir monsieur.
Alors Géodos, qu'est-ce que vous avez pensé de ce match face au Malawi?
Évidemment, j'ai suivi avec intérêt ce match entre le Bénin et le Malawi, mais je puis vous dire qu'au terme des 90 minutes, le pays, le Bénin, a remporté le match par le score de 1-0, ce qui m'a donné une joie que je ne peux même pas expliquer.
Est-ce que vous pensez, Géodos, qu'ils vont aller jusqu'à la qualification?
C'est le souhait, vivement.
Eh bien, on va croiser les doigts. Merci beaucoup, Géodos, de nous avoir appelés. On va prendre un autre de nos spécialistes, Élisée Ongpatine, depuis Boïcon, c'est au Bénin. Bonsoir, Élisée.
Bonsoir Nicolas Pinault et bienvenue à Boïcon au Bénin.
Alors Élisée, vous avez évidemment suivi le match. Petite victoire 1-0, mais victoire quand même. Le quatrième but lors de ces éliminatoires de Stéphane Cézénion. Et les deux équipes hein, qui ont fini à 10, qu'est-ce que vous avez pensé de cette rencontre?
Ouais, c'est une rencontre hein, très disputée. Il faut dire hein, que les Malawites étaient à Cotonou juste hein, pour limiter les dégâts. Déjà dès l'entame, on a senti que c'est une équipe qui est venue à Cotonou, ne serait-ce pour négocier tout au moins un match nul ou bien marquer, puisque vous le savez très bien, le but marqué à l'extérieur compte énormément pour ce genre de rencontre. Pour ce qui est du quatrième but de Stéphane Cézénion, il faut dire que c'est un capitaine exemplaire, très en forme. Vous le savez, le début de la saison dernière, il était blessé, il était venu en fin de saison, ce qui lui permet aujourd'hui hein, d'être en forme et d'amener très loin cette formation, puisque l'objectif, c'est clair, hein, c'est de se qualifier pour cette CAN qui aura lieu au Maroc en 2015, mais le tout reste encore à faire. Déjà, se déplacer du côté de Lilongwe pour aller négocier une qualification, ce qui n'est pas évident, puisque le sélectionneur Didier Olé-Nicole, très prudent, hein, puisque déjà, il faut aller négocier cette qualification face à une équipe déterminée, puisque lors des 15 dernières minutes de cette explication, c'est une équipe très déterminée, bien organisée hein, que celle du Bénin, c'est vrai, les deux équipes ont écopé de cartons rouges pour anti-jeu. Eh bien, l'arbitre tunisien a jugé bon hein, de faire sortir et le latéral droit Nana Badarou hein, qui évolue en Algérie et l'autre Nzonkoué qui a été, ces deux joueurs ont été expulsés, j'allais dire, de cette rencontre. Mais tout reste à faire puisque le Bénin n'a pas montré grand-chose. Et le plus difficile maintenant, c'est d'aller négocier cette manche retour avec la plus belle manière.
Eh ben, merci beaucoup, Élisée. Allez, on va écouter évidemment le sélectionneur du Bénin, Didier Odé-Nicole, qui revient sur le manque de réalisme de son équipe.
C'est une victoire qui est intéressante parce que déjà, il y a eu victoire. Aussi parce qu'on n'a pas pris de but dans le cadre d'une double confrontation, c'est toujours intéressant. On évite le but à l'extérieur qui peut compter double en cas d'égalité, donc ça c'est important. Mais malheureusement, vu le nombre d'occasions qu'on a eues en deuxième mi-temps, on aurait dû, dès cette première rencontre, se mettre à l'abri. Donc il y a de la satisfaction par rapport au sérieux des joueurs, mais aussi un peu de déception de ne pas avoir plus fait la différence.
Est-ce que c'est pas ça justement la déception, le manque de réalisme de votre équipe?
Bien sûr, par rapport à un qu'on tire sur la barre, sur le poteau, qu'on a 3 ou 4 face à face avec le gardien. Pratiquement le tour a dû être réalisé hier, mais voilà, c'est le football. C'est aussi une période difficile parce que c'est entre une fin de saison et le début de l'autre, une période de préparation où bien sûr les joueurs ne sont pas prêts. Et certainement, il a manqué un peu de fraîcheur, un peu de lucidité dans le dernier geste.
Qu'avez-vous pensé de cette équipe du Malawi?
Bon, sur le match, elle est venue pour ne pas prendre de but, pour faire le 0-0, donc c'est dur de juger. Elle est juste sortie un petit peu sur la fin, sur deux ou trois coups de pied arrêtés. Donc voilà, dur d'avoir, très très sincèrement, je passe la langue de bois, mais bon, on ne m'a pas impressionné plus que ça. Il y a deux ou trois bons joueurs, notamment un bon petit numéro 10 avec un bon pied gauche au coup de pied arrêté, donc il faudra être attentif. Mais je reste tout à fait persuadé qu'une bonne équipe du Bénin doit aller se qualifier à Malawi.
Didier Olé-Nicole, le sélectionneur du Bénin, et je vous rappelle que les matchs retour auront lieu dans 15 jours. Vous êtes toujours à l'écoute de la Voix de l'Amérique. L'Algérie a un nouvel entraîneur depuis ce week-end. Le bureau fédéral de la fédération a officialisé la nomination du Français Christian Gourcuff à la tête de l'équipe nationale à partir du 1er août. Il prend donc la succession du Bosniaque Vahid Halilhodžić, parti en Turquie et qui évidemment avait mené l'Algérie, on s'en souvient, en 8e de finale de la Coupe du Monde. Avant de vous entendre, on va écouter notre confrère algérien Mokran Ahad du service des sports du quotidien Horizon.
On dit que c'est un bon formateur. On dit qu'il a réussi dans les petits clubs, qu'il n'a pas tellement osé aller dans, c'est-à-dire en Ligue 1 ou faire des expériences à l'extérieur de la France. Il est resté à Lorient. Je ne sais pas maintenant. On dit qu'il a été un bon formateur. Mais bon formateur, je crois que c'est bon pour un club de championnat national. Moi, je vous dis maintenant, la responsabilité est chez la Fédération algérienne de football. Elle a suivi une politique de nommer des entraîneurs étrangers. Maintenant, derrière cette nomination de Halilhodžić ou de Gourcuff ou de quelqu'un d'autre, maintenant cette piste de l'étranger. Je ne sais pas pourquoi la Fédération algérienne a toujours tendance à s'entourer pour l'équipe nationale d'entraîneurs étrangers. Pour moi, c'est du bluff. Parce que Adilosic en lui-même, son CV est vide, Cuff maintenant. C'est pareil, il est bon formateur. Mais moi, je vous dis une chose, en tant qu'ex-footballeur, je vous dis qu'un formateur ne réussit pas dans une équipe qui joue la compétition. Une équipe nationale a besoin de gagner des matchs, a besoin de. Elle n'a pas besoin de formateur. Mais rien ne dit que M. Gourcuff ne pourrait pas s'improviser entraîneur de compétition. Et pourquoi pas?
Voilà Mokran Ahad, notre confrère hein, du quotidien Horizon. Alors messieurs, le débat est ouvert évidemment, on va commencer peut-être par vous Jules Valentin. Toujours ce débat en Afrique, hein, entraîneur occidental ou non, Vahid Halilhodžić, son départ était acquis même avant la Coupe du Monde. Alors est-ce que c'est un choix judicieux, Christian Gourcuff qui a surtout une expérience de Ligue 1?
Oui, je dirais d'abord par rapport au problème des entraîneurs étrangers qu'ils sont un mal nécessaire dans la mesure où l'entraîneur local reçoit souvent beaucoup plus de pression que l'entraîneur auréolé de son étiquette, disons à partir des clubs de plus haut niveau. Bon, donc il est clair que ça c'est un choix surtout pour aller dans la continuité. Et Gourcuff qui arrive est surtout un entraîneur, disons que habitué à faire du jeu. À Lorient, il a démontré, même si Lorient n'a pas fait de très grands résultats, mais le jeu de Lorient est plaisant et il est assez comparable à celui de l'équipe d'Algérie. Il faut retenir également que l'équipe d'Algérie s'est constituée, elle est en fait arrivée à un bon niveau de compétition et il suffira juste de la gérer et de coacher ses matchs positivement.
Oui, Salif Kabore à Ouagadougou sur cette nomination de Christian Gourcuff.
D'abord, je dirais tout de suite que c'est une patate chaude que cet entraîneur donc, vient de se mettre sous la barre parce qu'il va falloir faire mieux que Vahid Halilhodžić. Et ce sera très difficile en tout cas pour ce coach parce que l'ancien entraîneur a habitué à ce peuple algérien. Hein, vous voyez, la Coupe du Monde est à la clé avec les quarts de finale, donc il va falloir faire mieux. Et surtout quand on sait qu'en Algérie, le football, véritablement, c'est, pour ne pas dire la première religion, c'est vraiment la deuxième religion là-bas. Et je crois que les Algériens ne sont pas tolérants, c'est un public qui veut tout de suite les résultats, qui n'apprécie pas les prestations moyennes, il veut tout de suite aller au sommet des choses, alors que ce n'est pas évident. Je pense plutôt que la Fédération algérienne de football a aussi fait le point, soit effectivement confiant. Hein, le Sénèque à un expatrié, à un international, à un étranger venu d'ailleurs. Parce que on a vu par le passé, même c'est toujours courant, qu'un peu partout à travers le continent africain, le problème des entraîneurs locaux, c'est toujours un problème, c'est toujours des difficultés. Et les entraîneurs souvent n'arrivent pas à travailler parce qu'il y a des points qui se forment tout de suite hein, autour de l'équipe. Chacun veut tirer la couverture de son côté et finalement, ce sont des échecs hein, et c'est la catastrophe. Donc je crois que le fait de prendre un entraîneur est une bonne chose pour la fédération, mais véritablement, est-ce qu'il pourra aller au-delà des résultats que Vahid Halilhodžić a obtenus? Il va falloir qu'il le fasse, sinon il sera remercié d'ici là.
Et alors, Élisée Oupatine, Mokran Ahad, il disait que Christian Gourcuff, c'est avant tout un formateur et qu'en équipe nationale, on n'a pas le temps, il faut des victoires. Est-ce que vous partagez cette analyse?
Bien évidemment, sur deux mesures. La première d'abord, c'est un formateur. Est-ce qu'il aura cette durée-là pour pouvoir permettre hein, à cette sélection nationale d'avoir les résultats qu'il faut? L'autre problème, vous savez, à deux matchs près, si le résultat n'y est pas, bon voilà, il sera démis de ses fonctions. Vous le savez, moi j'ai eu la chance de discuter avec lui puisqu'il était au stade de l'amitié de Cotonou ce dimanche hein, pour suivre le match entre le Bénin et le Malawi. Et c'est vrai, il n'a pas voulu accorder une interview. Il a dit qu'il préfère accorder une interview à la presse algérienne et avant de se laisser hein, convaincre par les autres organes. Maintenant, il s'est dit qu'il est bien conscient de la tâche hein, qu'il attend. Voilà, puisque Halilhodžić a abattu un travail remarquable. Et là, maintenant, à un an de la CAN, l'Algérie ne peut plus jouer une compétition pour dire, bon voilà, l'objectif c'est d'aller en demi-finale ou bien aller en finale. L'objectif premier, le premier objectif, j'allais dire, c'est de remporter une Coupe d'Afrique des Nations qui échappe à cette sélection depuis 1990. Maintenant, l'ancien entraîneur de l'Orient aura les bagages qu'il faut pour amener très loin cette formation, puisque vous l'avez dit, c'est un formateur, mais c'est un bon entraîneur puisqu'il a démontré son savoir au niveau de la Ligue 1 française de football. En tout cas, moi, je suis là pour remarquer si effectivement il pourra amener très loin cette formation. L'autre problème, ce qui amène souvent nos dirigeants à aller chercher les étrangers comme entre guillemets les blancs, comme on le dit souvent, c'est ce feeling, c'est cette intelligence là. Parce que moi, selon moi, qu'est-ce qui a éliminé le Ghana lors de ce mondial qui a lieu au Brésil, c'est un problème de coaching. C'est des rencontres qui se jouent souvent sur des détails. Et nos frères africains, est-ce qu'ils ont souvent cette philosophie là pour pouvoir faire le bon coaching? Vous voyez donc ces blancs qui ont bien sûr le diplôme qu'il faut, ils amènent souvent nos équipes à aller très loin lors de ces genres de compétitions. Maintenant, Gokruf, on l'attend très bien pour voir de quoi il est capable, puisque ce sera une première pour lui à la tête d'une sélection nationale.
Merci beaucoup Élisée. Alors, comme annoncé, autre nomination au Brésil après le camouflet, cette Coupe du Monde évidemment. Luis Felipe Scolari a été limogé et on connaît son successeur qui sera intronisé demain. Ce sera Dunga, le retour du sélectionneur qui avait qualifié le Brésil en quart de finale, c'était à la Coupe du Monde 2010. Et puis on retourne à Libreville avec Jules Valentin Ngoué puisque les Panthères du Gabon ont un nouvel entraîneur. Il a fallu 8 mois pour trouver le remplaçant de Paulo Duarte. La piste portugaise tient toujours la corde puisque c'est un autre Portugais, Jorge Paulo Costa Almeida, dit Jorge Costa, qui succède à Paulo Duarte, ancien international portugais aux 50 sélections. Éclairage avec Fritz Koum.
Né le 14 octobre 71 à Porto, Jorge Costa débute sa carrière de joueur en 89 au FC Porto. En 17 ans, il évoluera dans 5 clubs et remporte en 2004 avec le FC Porto la Ligue des Champions. Sa carrière d'entraîneur, commencée en 2007, est moins riche et marquée par une instabilité. 7 clubs en 8 ans, le dernier étant Clube de Ferreira qu'il vient de quitter pour le Gabon, où il remplace son compatriote Paulo Duarte. Pierre-Alain Mungengui, le président de la fédération, pense que l'ancien défenseur international a le profil pour diriger les Panthères.
Monsieur Costa nous a fait parvenir son CV. Nous l'avons regardé, nous avons apprécié son parcours de joueur d'abord, puis d'encadreur technique. Et nous nous sommes rapprochés du ministre de la Jeunesse et des Sports pour dire que ce profil nous intéressait. Et le ministre a établi un contact avec Monsieur Georges. Nous pensons avoir fait un choix judicieux pour nous, parce que après toutes les discussions que nous avons eues avec M. Georges, nous avons compris que finalement nous regardions dans la même direction.
Signalons que Jorge Costa sera sa première expérience africaine à signer pour 2 ans avec comme objectif la qualification à la CAN 2015 et au Mondial 2018. Fritz Koum, La Voix de l'Amérique.
Vous êtes toujours à l'écoute de La Voix de l'Amérique, le magazine Sporama, tous les lundis soirs pour parler des résultats sportifs. En bref, la SEC Mimosa et le COE San Pedro, vainqueurs des demi-finales, joueront la finale de la Coupe de Côte d'Ivoire. Ce sera le 6 août prochain. La SEC Mimosa, tenant du titre, a battu lors de la première demi-finale le Sporting Club de Gagno 1-0. Et le COE San Pedro, champion de Côte d'Ivoire, a défait hier le Stella Club 2-1. C'est la troisième fois que les deux équipes se retrouvent en finale. La balance penche pour la SEC, qui s'est imposée à 2 reprises. 5-0 en 99 et 1-0 la dernière fois, c'était en 2005. Et puis on part au Burkina Faso. Salif Kabore est en ligne avec nous et on parle évidemment à une journée de la fin du championnat de la première division au Burkina. C'est l'étoile filante de Ouagadougou qui est bien partie pour décrocher le titre cette année. Ce serait une première depuis 2007. On va écouter les explications de Salif Kabore.
Le dernier titre de champion remporté par l'étoile filante de Ouagadougou remonte en 2007. 7 ans après, la reine des stades est bien partie pour remporter celui de 2014. À une journée de la fin du championnat burkinabé, l'étoile filante de Ouagadougou totalise 61 points, mais elle est suivie par l'Union sportive des forces armées, le club militaire du Burkina Faso, qui compte actuellement 58 points. Un match nul lors de la 30e et dernière journée suffirait donc aux bleus et blancs de la capitale burkinabé de décrocher le titre. Déjà, les supporters de l'EFO se félicitent et pour eux, le titre est un acquis.
Les coups méritent d'être champion. Vraiment, je suis très content. Ils méritent le titre. Moi, je demande aux joueurs de rester solidaires, de se donner à fond.
Vraiment, on est très heureux de voir les faux qui est l'étoile filante de Ouagadougou remporter le titre. Sincèrement, on a vu qu'ils ont trop souffert pendant 7 ans sans le titre. Je pense que ce championnat, ils l'ont mérité. Ils ont trop joué. Donc, ce titre, ils le méritent. Je suis très fier.
Pour parvenir à ces résultats, le club a été remanié à plusieurs reprises. Moustapha Dektounda est le président de l'EFO.
Ça fait 7 ans que nous courons pour être champion de Burkina. Nous avons par 2 fois remanié l'effectif. Les gens ont critiqué, mais c'est comme on le dit, par 3 fois nous avons remplacé les entraîneurs. On ne peut pas faire des omelettes sans casser des œufs. Je crois que c'est sous ce travail réuni qui a payé aujourd'hui.
D'ores et déjà, à l'étoile filante de Ouagadougou, les préparatifs pour la campagne africaine sont projetés pour défier les grands clubs.
L'équipe va connaître des modifications. Si on veut faire une représentation honorable, il faut forcément renforcer l'équipe à certains niveaux, à certains postes. Donc nous allons être obligés de faire recours à des joueurs plus talentueux, éventuellement que ce soit au niveau interne ou à l'extérieur. Nous allons aussi essayer de bénéficier d'une formation d'entraînement à l'extérieur. Pour un club qui doit aller en campagne africaine, les préparations ne doivent pas se faire comme si on partait en championnat national. Vous voyez les grands clubs comme la SEC d'Abidjan ou le Stade Bamako ou le Djoliba, nous n'avons pas leurs moyens, mais je pense quand même que ces équipes-là mettent un peu plus de sérieux dans leur préparation que nos équipes. Et nous, nous allons cette année essayer de nous mesurer à ces clubs-là en allant nous former, soit en Côte d'Ivoire ou au Mali, ne serait-ce qu'un stage bloqué d'au moins 1 ou 2 semaines pour prendre leur expérience afin de pouvoir représenter honorablement le pays.
Ouagadougou, Salif Kabore, la voix de l'Amérique.
Et on retrouve Salif Kabore en direct. Alors Salif, l'étoile filante va-t-elle filer vers le titre ?
C'est toute la détermination de l'équipe qui est là. Hein. Je crois qu'ils sont déterminés en tout cas à prendre ce titre après cette année parce que les supporters veulent le titre. Hein. Les dirigeants sont là, ils sont déterminés. Donc, mais le club militaire n'a pas dit son dernier mot. Attendons la dernière journée.
Hey, on verra bien. Merci beaucoup, Salif. En football, toujours, le tirage au sort du 9e championnat d'Afrique féminin aura lieu en Namibie du 11 au 25 octobre prochain. Ce tirage au sort a eu lieu samedi. Dans le groupe A, on aura la Namibie, la Zambie, le Nigeria et la Côte d'Ivoire. Et dans le groupe B, l'Afrique du Sud, le Cameroun, l'Algérie et le Ghana. Jules Valentin Gouet, ça va certainement être du classique. Nigeria-Ghana ?
Oui, bien sûr. Nigeria-Ghana, c'est un baromètre du football africain. Donc, on s'attend à tous les niveaux de la compétition, que ce soit chez les jeunes ou chez les grands. Quand on a un tel match, on se donne une idée un peu de ce que le réservoir africain nous réserve pendant cette compétition. Et donc, ce que représente en fait le background aussi du football africain en arrière. Donc, je crois que ce sera un sommet.
Et 2 informations, évidemment, aux rubriques des transferts au football. L'arrière latéral français de Manchester United, Patrice Evra, s'est engagé pour les 2 prochaines saisons avec la Juventus de Turin. Et puis Élisée Oupatine, le capitaine de l'Angleterre qui raccroche les crampons. Fin de carrière internationale pour Steven Gerrard. 34 ans, 114 sélections quand même. Hein.
Bien évidemment, hein, qui a connu une fin de saison difficile hein, cette saison, hein, puisque on se rappelle, hein, suite à ce bout-là, il a donc empêché Liverpool de remporter le titre de champion, mais il a apporté énormément à ce football. On se rappelle, Nicolas, qu'il a apporté rien que le maillot de Liverpool, il a apporté aussi pour l'équipe anglaise hein, qui n'est pas allée loin lors de ce mondial, on ne peut que lui tirer un grand chapeau.
Et oui, l'Angleterre a hein, éliminé dès le premier tour, Élisée. Hein.
Bien évidemment, on attendait les Anglais très loin dans cette compétition par compte tenu du niveau de la première ligue anglaise, mais une fois encore, on a été déçus, j'allais dire, par la prestation de ces Anglais. Maintenant, le sélectionneur doit revoir encore son schéma. Si, en tout cas, il veut voir cette sélection aller très loin, surtout pour l'Euro 2016 qui aura lieu en France.
Voilà, et rapidement, au basketball, l'équipe de Saint-Louis a remporté pour la 4e fois consécutive la Coupe du Sénégal de basketball dames en battant Dakar Université Club 63-61 lors de la finale disputée hier à Dakar. Voilà, ainsi s'achève ce Sporama. On va remercier à Libreville, Jules Valentin-Gouet. Bonsoir Jules.
Bonsoir Nicolas et à très bientôt.
Un grand merci à Ouagadougou, à Salif Kabore. Bonsoir Salif.
Bonsoir Nicolas, bonsoir à toutes et à tous et à très bientôt sur la Voix de l'Amérique.
Et on va faire un grand coucou également à Élisée Oumpatine depuis le Bénin Boïko. Bonsoir Élisée.
Bonsoir Nicolas et à bientôt.
Merci à tous, tous les fidèles de sport, de nous avoir suivis ce soir sur les ondes de la Voix de l'Amérique. C'était Sporama présenté par Nicolas Pineau. On vous rappelle, vous pouvez nous suivre sur Facebook. La page, c'est la Voix de l'Amérique. Merci à Lionel Gaïma pour la mise en onde. On vous donne rendez-vous évidemment la semaine prochaine pour continuer à parler de sport sur la Voix de l'Amérique.
Tous les lundis soirs, la Voix de l'Amérique met le sport à l'honneur. Les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs, en direct à 19h, temps universel. Pour intervenir, c'est très simple. Laissez vos messages sur la page Facebook de Sporama ou par mail à fr@voanews.com. À très vite sur le terrain de la Voix de l'Amérique.
Il est 19h30, temps universel. Washington, la Voix de l'Amérique.